France Info.
L'Infomédia, bonjour Céline Baïd-Darcourt.
Bonjour.
Le nouveau numéro du magazine Hebdo sort aujourd'hui en kiosque, Céline, mais c'est le dernier. L'aventure n'aura duré que 11 semaines. Le magazine s'arrête donc brutalement, faute de lecteurs et faute d'argent.
Voilà, des mauvaises ventes et des revers financiers. Ça signe l'arrêt de mort d'Hebdo, lancé le 12 janvier dernier. Il aurait fallu trouver 8 millions d'euros pour continuer la publication, car plusieurs investisseurs et deux banques se sont retirés. Mais de toute façon, la mayonnaise n'a pas pris. Les lecteurs, y compris les abonnés, ont visiblement été déçus du résultat final. Eux qui avaient été emballés par la promesse éditoriale, du journalisme autrement, pas d'hystérie de l'info, une accessibilité à tous. Hebdo voulait parler à ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'offre actuelle. Le discours a fonctionné, 400 000 euros récoltés sur Internet grâce au financement participatif, un record pour un média, 8 000 abonnements avant le lancement.
Mais alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Hebdo se casse la figure aussi vite?
Il visait 90 000 exemplaires pour arriver à l'équilibre dans 2 ans. Très ambitieux, sûrement trop. Premier numéro, 53 000 ventes, ça démarrait plutôt bien, mais dès le deuxième, c'était moitié moins. Et puis le 9 février, Hebdo fait un coup d'éclat, il titre l'affaire Hulot et révèle que le ministre a fait l'objet d'une plainte pour viol classée sans suite pour cause de faits prescrits. Il y a aussi une accusation de harcèlement sexuel, mais démentie par la présumée victime. Là, les abonnés expriment leur désaccord. La plupart des médias dénoncent l'absence de déontologie. En interne aussi, les discussions ont été vives. Cela a précipité le malaise, reconnaissent aujourd'hui les fondateurs d'Hebdo qui parlent d'un rendez-vous manqué. Avec les lecteurs.
Il s'est bien vendu au moins ce numéro sur Nicolas Hulot?
Pas tant que ça, 23 000 ventes, mais les semaines suivantes ça a été la descente aux enfers pour arriver vendredi dernier à peine 10 000 exemplaires vendus. Impossible de continuer dans ces conditions, Hebdo s'arrête et il faut maintenant sauver son éditeur Rollin Publications qui gère également les revues 21 et 6 mois. Il est en cessation de paiement, recherche des repreneurs, 63 personnes y sont salariées dont une quarantaine avaient été engagées pour le lancement d'Hebdo.
Et on reste dans la presse écrite avec notre invitée qui est ce matin la directrice de la rédaction du magazine Marie-Claire.
Bonjour Marianne Mérès.
Bonjour.
Hebdo qui disparaît après seulement 11 numéros, ça peut encore marcher un nouveau magazine? Il y a de l'espace et des lecteurs?
Non, il y a peu d'espace. L'espace se raréfie puisque on sait tous que les ventes de la presse baissent. Mais juste un petit mot, je trouve ça toujours triste, un journal qui s'éteint,
bien
parce
sûr.
Qu'on sait combien ça demande de croyance, de travail, de conviction pour toute une équipe. Donc voilà, j'ai juste une pensée pour eux, parce que c'est difficile de monter un magazine, de le construire, de le faire vivre. Non, c'est de plus en plus difficile le contexte, mais quand même, moi je tiens à dire que je continue de croire en la presse écrite, comme un socle. Je sais qu'à Marie-Claire, par exemple, le magazine Marie-Claire est quelque chose de fondamental pour notre identité, pour ce que nous représentons, pour notre image. Alors évidemment que le monde se digitalise et s'est digitalisé, et que les usages ont totalement changé, on en a besoin. Mais je crois que l'espace, qui est un espace particulier aussi pour les femmes, de ce temps avec son magazine, qui est un temps intime, un temps justement de retrait, et qui va bien aussi avec notre temporalité de mensuel, continuera d'exister. Alors bien sûr, en moins quantitativement,
il y aura moins de ventes,
mais je crois qu'il y a un moment ça va stabiliser et qu'on continuera à exister, mais comme un bel objet intelligent. C'est-à-dire qu'il faut soigner l'écriture, il faut soigner les reportages, il faut soigner les enquêtes, il faut soigner le visuel.
Il faut être haut de gamme.
Haut de gamme, mais dans le sens qualitatif, je dirais, pas péjoratif. C'est-à-dire que haut de gamme, ça veut dire être extrêmement exigeant sur la qualité des enquêtes, la qualité de l'écrit, la qualité des images. Nous, voilà, il y a un nouveau Marie-Claire qui va sortir dans notre début mai. On a voulu retravailler le visuel, justement. Donc je crois qu'il faut être extrêmement exigeant et je crois que ce seront les meilleurs qui resteront.
C'est ça la stratégie pour faire face justement aux nouveaux usages, éviter de dégringoler. Comment vous faites?
Moi, je pense justement qu'il faut pas singer le digital sur le print. Je pense que c'est une erreur parce que précisément les personnes qui continuent d'acheter la presse écrite, et il y en a encore quand même beaucoup, même si ça décroît, cherche autre chose que le digital. C'est facile d'avoir des informations partout, tout le temps, on le sait. Être mensuel, ça veut dire justement pouvoir se permettre le temps de la réflexion, le temps du recul, le temps de la sélection aussi. On a un magazine qui a vraiment des partis pris très forts sur ce qu'on choisit de traiter ou pas. Donc c'est une autre temporalité. Donc je pense qu'il ne faut pas singer le digital. Vraiment, je pense que la presse écrite, c'est une erreur de faire ça. Il faut intégrer évidemment l'époque et ses usages, mais il faut assumer sa temporalité et offrir justement autre chose.
Alors Marie-Claire lance le mouvement Indifférence Zéro pour lutter contre le harcèlement dans la rue ou dans les transports en commun. Comment ça se traduit dans vos colonnes ce mois-ci?
Alors en fait, on a fait un grand dossier sur cette question, parce que quand on réfléchit très clairement à cette situation, on s'aperçoit que les femmes, elles ont intégré le fait que possiblement elles allaient être agressées tous les jours. C'est quand même dingue de dire qu'on a intégré cette réalité-là.
Il y a une fatalité.
Il y a une fatalité. Donc, on a tout élaboré plus ou moins des stratégies. Moi, je vois très bien autour de moi. Il y a des filles qui ont des longs cheveux blonds, qui se font un chignon quand elles prennent le métro. D'autres qui mettent forcément un jean. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue d'imaginer qu'en tant que femme, en 2018, on est obligé d'adapter ce que nous sommes et ce que nous voulons être. On est obligé comme de se rétrécir parce que possiblement, on sait qu'on va être agressé de l'insulte qui va de salope, grosse pute, assez courante. Jusqu'au viol possiblement dans le métro. Hein. Donc ça, en fait, quand on réfléchit à froid là-dessus, moi j'ai une fille de 12 ans par exemple, qui a peur de prendre le métro toute seule. Voilà, et ben je trouve ça dingue. Le métro c'est quand même un moyen de transport hyper simple, hyper facile, totalement démocratique. Et on se dit que à cause de cette espèce de menace potentielle, les femmes se rétrécissent. Et je pense que l'espace public, c'est inadmissible qu'on soit rétréci dans l'espace public.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez?
Alors justement, nous en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on on a essayé, on a fait un grand dossier de 10 pages, on a fait une campagne DDB assez choc, où on renvoie...
DDB, juste pour préciser
Oui, c'est une agence de pub, pardon. Voilà. Donc qui a élaboré une campagne avec nous, où en fait on renvoie chaque personne à son comportement quand il y a une agression, quelque chose qui se passe dans le métro ou dans la rue. Très honnêtement, les gens sont davantage dans une conduite d'évitement que de solidarité. Donc on s'est dit, si chacun examinait un petit peu sa conscience, essayait de se dire que cette situation n'est pas normale. Moi récemment, on m'a encore raconté, il y a une fille de 19 ans dans le métro qui s'est assise dans les places à 4, il y a un homme qui s'est assise en face d'elle qui s'est mis à se masturber. Et personne n'a réagi, personne n'a bougé.
Voilà. Donc ça devient balance ton lâche?
Non, c'est pas ça, justement, pas du tout. C'est pas balance ton lâche, c'est soyons solidaires. C'est-à-dire que dans une rame de métro, cette même scène-là, s'il y a deux personnes qui disent cette situation n'est pas normale, monsieur veuillez cesser ou n'importe quoi, tout d'un coup, l'agresseur il devient minoritaire et la situation s'arrête. Il y a aussi des choses toutes simples. Par exemple, quand on voit qu'une fille est embêtée dans le métro ou dans la rue, etc., par quelqu'un, on peut tout à fait faire semblant de la connaître et dire « Ah tiens, je t'ai pas vu depuis... » C'est tout simple. Ça demande pas beaucoup de courage spécifiquement. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est créer une prise de conscience en disant si tous on essayait d'être vaillants, vigilants, peut-être que ça changerait.
Prise de conscience collective et puis surtout durable. Merci beaucoup, Marianne Mérès.
Je vous en prie. Directrice de la rédaction de Marie-Claire, merci beaucoup. C'était l'Infomédia avec Céline Baïd-Darcourt.